Le président iranien s'est entretenu avec son homologue russe en marge du 6e sommet des chefs d'État des États riverains de la mer Caspienne, tenu ce mercredi 29 juin à Ashgabat, capitale turkmène. La Syrie a reconnu l'indépendance et la souveraineté des républiques populaires de Luhansk et de Donetsk, et l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, a exprimé sa préoccupation concernant le différent frontalier entre l'Éthiopie et le Soudan. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a rencontré ce mercredi 29 juin son homologue russe Vladimir Poutine à Ashgabat en Turkménistan. En marge du 6e sommet des chefs d'État des États riverains de la mer Caspienne, tenu 29 juin à Ashgabat, capitale turkmène, le président iranien s'est entretenu avec son homologue russe, alors que, plus tôt dans la journée, il avait rencontré ses homologues turkmènes et azerbaïdjanais. Accompagné des ministres des Affaires étrangères et du pétrole, M. Raisi s'est rendu le mercredi matin à Ashgabat pour assister au sommet des États riverains de la Caspienne. Le sommet ayant réuni les présidents de l'Iran, de la Russie, du Kazakhstan, du Turkménistan et de la République d'Azerbaïdjan a débuté après les principales réunions entre les dirigeants des États riverains de la Caspienne. Lors de son discours, le président iranien a déclaré que la République islamique d'Iran considérait la mer Caspienne comme une mer d'amitié et de paix et un facteur de proximité entre les peuples de la région, affirmant que l'Iran exprime sa volonté d'une coopération totale basée sur le respect mutuel et les intérêts réciproques. Ebrahim Raisi s'est félicité qu'une bonne et constructive coopération existe entre les pays riverains dans les différents domaines du transport, du commerce, de l'environnement et de la sécurité, ainsi que dans la lutte contre les sources d'insécurité et de criminalité dans la région. Il a déclaré qu'une convention juridique de la mer Caspienne reflétant les droits et obligations des États riverains a été finalisée et signée lors du dernier sommet de la mer Caspienne à Akto en 2018, notant que la mise en œuvre de cette convention pourrait conduire à une coopération accrue entre les 5 comtés littoraux. Il a également souligné la nécessité de déterminer les frontières des fonds marins et sous-marins de la mer Caspienne. La Syrie a annoncé mercredi 29 juin avoir reconnu l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Luhansk et de la République populaire de Donetsk, conformément à la volonté et au désir commun d'établir des relations dans tous les domaines. La Syrie a décidé de reconnaître l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Luhansk et de la République populaire de Donetsk, a indiqué une source au sein du ministère syrien des Affaires étrangères citée par l'agence de presse officielle syrienne Sana. Des responsables des deux pays vont se mettre en contact pour convenir des cartes de renforcement des relations, y compris l'établissement de relations diplomatiques conformément aux règles, a ajouté la même source. Aussitôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la fin des relations diplomatiques avec la Syrie. « Il n'y aura plus de relations entre l'Ukraine et la Syrie », a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Telegram, affirmant que la pression des sanctions contre Damas, allié de la Russie, sera encore plus grande. La Syrie est le premier et seul pays étranger à reconnaître l'indépendance de ces régions. Jusqu'à présent, seul Moscou avait reconnu en février l'indépendance de ces deux régions situées dans l'est de l'Ukraine. Dans le contexte de l'accord de l'OTAN avec la Turquie, les Kurdes proposent d'expulser la coalition internationale de Syrie. En réponse au fait qu'une décision positive a été prise sur l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, en échange de la rupture des relations entre ces deux États avec les formations kurdes, ce qui a été activement promu par les pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord, les Kurdes entendent d'envisager la possibilité d'un blocus de la coalition internationale sur l'ensemble du territoire contrôlé de la Syrie, privant notamment les États-Unis d'accès aux champs pétrolifères du nord-est de la République arabe. Les Kurdes ont accusé la Suède, la Finlande, la Turquie et d'autres pays de l'OTAN d'hostilité de facto envers le PKK et les Kurdes. L'Occident a bloqué une déclaration préparée par la Russie par le Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la récente frappe aérienne israélienne sur l'aéroport de Damas, a déclaré le premier vice-représentant de la Fédération de Russie, Dmitri Polianski. Nous regrettons qu'en raison de la position politisée des délégations occidentales, le projet de déclaration du Conseil de sécurité que nous avons préparé pour la presse était bloqué. Encore et encore, nous sommes convaincus à quel point vos approches politisées se reflètent dans vos principes, a déclaré Polianski lors d'une réunion du Conseil de sécurité. La déclaration contenait une condamnation de l'attaque aérienne israélienne sur l'aéroport de Damas. L'Occident continue de flirter avec les terroristes en Syrie, essayant de les utiliser à ses propres fins géopolitiques, a déclaré Dmitri Polianski, pour lequel la situation sur le terrain dans la République arabe syrienne reste stablement tendue. Les principales menaces à la sécurité de la Syrie et de toute la région sont associées à la présence continue à grande échelle de terroristes qui se sont réfugiés dans les territoires non contrôlés par Damas, à Idlib et Al-Tanf, a déclaré Polianski. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que la solution de la crise syrienne passe par la fin de la présence militaire étrangère illégale en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que par l'arrêt inconditionnel des frappes aériennes israéliennes régulières, dont la dernière a frappé l'aéroport international de Damas, a-t-il déclaré. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a abordé mercredi 29 juin les questions de sécurité alimentaire mondiale lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. M. Lavrov a évoqué la situation en Ukraine en mettant particulièrement l'accent sur les problèmes actuels liés à l'approvisionnement en produits agricoles et en engrais sur les marchés mondiaux, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a confirmé que la Russie est prête à continuer à exporter de la nourriture et des engrais, malgré les complications existantes, à savoir la présence de sanctions occidentales illégales et la perturbation des chaînes de valeur mondiales en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Le chef de la diplomatie russe a par ailleurs réaffirmé l'engagement de Moscou à poursuivre le travail visant à réduire les menaces de la crise alimentaire en coordination avec les Nations Unies. Le bilan des migrants clandestins retrouvés morts lundi 27 juin dans une semi-remorque à San Antonio, une grande ville du centre-sud des États-Unis, dans l'État du Texas, s'est alourdi à 53 après le décès de deux survivants, selon le bureau du médecin légiste du comté de Bexar, mercredi 29 juin. Parmi les morts, 40 étaient des hommes et 13 des femmes, a précisé le bureau. Les autorités ont relevé que cette tragédie a connu le plus grand nombre de décès jamais enregistrés dans le cadre du trafic d'êtres humains près de la frontière américano-mexicaine. La semi-remorque à 18 roues était munie d'une fausse plaque d'immatriculation et transportait 67 migrants clandestins à son bord. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré mercredi 29 juin que les forces armées soudanaises espéraient à terme qu'un gouvernement élu prendrait en charge la direction du pays. Les seuls moyens de parvenir à ce but sont un consensus national global ou des élections, mais pas les appels aux manifestations et au sabotage, a dit M. al-Burhan lors d'une inspection près d'unité militaire spéciale à Khartoum, la capitale du pays. Selon un communiqué du Conseil souverain, le Soudan traverse une crise politique depuis que M. al-Burhan, commandant en chef des forces armées soudanaises, a déclaré l'état d'urgence et dissous le Conseil souverain et le gouvernement le 25 octobre 2021. Ce pays africain est depuis lors le théâtre de nombreuses manifestations réclamant le retour d'un régime civil. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, a exprimé sa préoccupation concernant le différend frontalier entre l'Éthiopie et le Soudan. Son secrétaire exécutif appelle les deux pays frères à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter les actions susceptibles d'aggraver davantage les tensions et à rechercher activement des moyens diplomatiques pour trouver une solution durable à la question, a-t-il dit dans un communiqué. L'Éthiopie et le Soudan sont tous deux membres fondateurs de l'IGAD, un bloc commercial et sécuritaire d'Afrique de l'Est fondé en 1986. Un peu plus tôt, mercredi, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également appelé l'Éthiopie et le Soudan à faire preuve de retenue et à entamer un dialogue concernant leurs différents frontaliers. Ces deux pays s'accusent actuellement de provocation à propos d'un incident frontalier meurtrier survenu la semaine dernière. Lundi, le Soudan a décidé de déposer une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Éthiopie, tandis que le Soudan a décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur à Addis Abeba pour consultation et de convoquer l'ambassadeur éthiopien à Khartoum pour l'informer de la condamnation du Soudan. Mardi, l'armée éthiopienne a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait exécuté sept soldats soudanais et a accusé en retour le Soudan de se livrer à des provocations militaires contre l'Éthiopie. L'Éthiopie et le Soudan ont depuis longtemps des revendications concurrentes sur la région frontalière d'Al-Fashaga, une zone de terre fertile peuplée d'agriculteurs éthiopiens. Le Soudan revendique sa souveraineté sur cette région. La junte malienne ne partira pas avant 2024. Au Mali, le scrutin législatif est prévu pour octobre 2023 pour le premier tour et novembre 2023 pour le second tour. Les deux tours de l'élection présidentielle sont prévus pour février 2024. Dans le chronogramme détaillé des 24 mois figurent en plus des dates des échéances législatives et présidentielles, un référendum prévu pour mars 2023 et l'élection des collectivités territoriales en juin 2023. Selon Amadou Koïta, du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie, cette proposition du calendrier électoral pourrait favoriser la levée des sanctions de la CEDEAO. Du côté de l'ex-parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, Boukari Treïta salue l'initiative du cadre de concertation nationale et promet d'étudier les propositions faites par le gouvernement. Pour sa part, Amadi Sangaré, du parti Jeunesse et Alternance, estime que le chronogramme proposé par les autorités de la transition sera difficilement tenable. Vendredi 24 juin, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, avait déjà promulgué la loi électorale adoptée par le Conseil national de transition. Autant de signes qui devraient militer en faveur d'une levée des sanctions de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine qui se réunira le 3 juillet en sommet à Accra, au Ghana. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Une alliance militaire préventive contre l'OTAN. Dans un acte préventif, avant que Bakou, avec qui les États-Unis et la Turquie entretiennent des relations privilégiées sur le plan militaire, n'agisse dans le sens des intérêts de l'OTAN, en faisant une percée atlantiste en Caspienne, la Russie prend les devants. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré mardi 28 juin que les dirigeants des cinq États riverains de la mer Caspienne, Russie, Iran, Kazakhstan, Azerbaïdjan et Turkménistan, avaient convenu d'accélérer les travaux sur un accord visant à renforcer les mesures de confiance et la coopération militaire en mer Caspienne. Selon Sergueï Lavrov, les parties ont insisté sans équivoque sur le principe de la Convention sur le statut de la mer Caspienne, selon lequel toute présence militaire d'États non riverains de la mer Caspienne est exclue. Dans le cas de la navigation en général, y compris la navigation civile, il a été décidé qu'en vertu de la Convention sur le statut de la mer Caspienne, la navigation ici n'est possible que pour les navires portant le pavillon de chacun des États riverains de la Caspienne, a-t-il dit. Nous avons approuvé ce principe qui comprend également l'entrée en mer Caspienne et le départ de tout navire, a-t-il poursuivi. Évoquant le sommet des États de la Caspienne tenu à Ashgabat, la capitale du Turkménistan, le conseiller du Kremlin, Yuri Oshakov, a déclaré aux journalistes « Moscou s'attend à ce que le sommet de la Caspienne confirme le caractère stratégique de la coopération multilatérale dans la région ». De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a indiqué lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des États riverains de la mer Caspienne Nous soutenons la proposition de tenir la deuxième conférence économique de la Caspienne en Russie. Le haut diplomate iranien a appelé à prêter une attention particulière aux deux domaines du commerce et du transport en mer Caspienne en tant que moteur de la croissance, du développement et de la prospérité de ces États. Ces propos interviennent alors que le président iranien Ebrahim Raisi a mis en garde contre l'ingérence étrangère dans la région, affirmant que lors de sa visite à Ashgabat, il discutera des moyens de contrer le problème avec les États riverains de la mer Caspienne. En plus du régime juridique de la mer Caspienne, tous les États riverains soulignent la coopération dans le domaine des transports, la gestion des ressources de la mer Caspienne et la prévention de la présence d'étrangers, a indiqué le président Raisi. Ayant quitté Téhéran dans la matinée du mercredi 29 juin pour la capitale turkmène, où il a assisté au 6e sommet des chefs d'État des États riverains de la mer Caspienne, M. Raisi s'est entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine, en marge de l'événement.